Le temps du carême nous entraîne au désert, c'est normal, et nous y sommes habitués désormais. Mais le désert nous renouvelle sans cesse, c'est le lieu même du combat spirituel, le lieu de la tentation, mais aussi de ce renouvellement spirituel qui nous met en présence de Dieu. Il est le rappel de l'Égypte. Le désert, c'est cet entre-deux, entre l'Égypte, un monde qui n'est vu que sous l'angle de la matière, que sous l'angle psychologique, un monde qui est clos sur lui-même, où tout s'arrête avec la mort. Et puis, ça c'est l'Égypte. Et il y a la terre promise, qui est ce paradis céleste que Dieu nous propose. Lui-même, son propre cœur, sa demeure, son royaume, dont nous n'avons qu'une faible idée. Cependant, par la foi, nous sommes conduits au désert, le temps d'une petite vie terrestre, pour apprendre à aimer Dieu, pour apprendre à désirer le ciel et à nous détacher des pensées de l'Égypte, des appétits de l'Égypte, puisque les Hébreux, souvent, c'était leur tentation lorsqu'ils avaient du mal à surmonter l'épreuve de la faim, par exemple, mais pas seulement. Et ils se souvenaient de ces nourritures de l'Égypte, des facilités de l'Égypte, et ils oubliaient toutes les difficultés d'un terrible esclavage qui les avait fait finalement choisir Dieu pour s'en aller. Le désert nous met vraiment profondément à l'épreuve. C'est un entre-deux entre l'idéal, celui de l'appel, et la réalisation, au sens de plénière, bien sûr, qu'est le royaume des cieux. Entre les deux, il y a le chemin de la foi, qui est notre chemin, et souvent aussi chemin de croix. La tradition monastique a fait du désert, l'a consacré, cette idée, ce concept du désert. Des hommes et des femmes partaient au désert à partir du 4e siècle de notre ère, disons, et pour s'adonner totalement au combat spirituel. Le combat spirituel, c'est... Les moines du désert ont souvent ce langage guerrier pour décrire leur expérience. Il s'agit vraiment d'aller à la rencontre des démons pour mener un combat face à face avec eux, et non plus par des intermédiaires, comme dans le monde. Dans le monde, les démons se cachent toujours derrière les autres créatures ou derrière des lois, des comportements, des normes, des objets matériels, etc. Et ils nous persécutent, ils nous combattent à travers ces médiations-là la plupart du temps. Ils se font rarement voir. Au désert, en revanche, c'est le lieu du dévoilement. Là, la lumière apparaît pour ce qu'elle est et les ténèbres aussi. Jésus a voulu inaugurer son ministère public par ses 40 jours au désert, qui sont évidemment le rappel des 40 jours du carême. Et nous mesurons bien que c'est un temps assez long tout de même. Et on peut, au bout de 40 jours, avoir faim comme le Seigneur eut faim. Il nous montre par là la nécessité de ce combat. Et il nous dit que pour être consacré à Dieu, la première chose que fait l'Esprit Saint en nous, comme il l'a fait pour lui, c'est de nous pousser au désert. Alors évidemment, pour nous, le désert, c'est notre vie terrestre. Donc ça dure plus de 40 jours. Mais une fois ces 40 jours accomplis, nous serons de véritables croyants. Nous serons vraiment débarrassés des démons. Alors ces démons que les moines allaient combattre au désert, et c'est un combat intérieur qu'ils menaient. Bien sûr, quelques-uns d'entre eux avaient des visions, mais ce n'était pas leur pain quotidien. Leur pain mystique quotidien, il était intérieur, et il se faisait surtout par la voix. Ils entendaient, ils avaient les pensées des démons, les logismoi, comme ils les appelaient, les pensées. Et ce n'est pas des pensées, pas des concepts, vous voyez, c'est des attraits. Ils étaient se sentait avoir faim d'un seul coup et hop, se mettait à avoir une véritable boulimie jusqu'à épuiser leurs réserves s'ils se laissaient faire. Ou bien, bonne envie de dormir au lieu de prier, au lieu de tresser des paniers, faire une bonne sieste, que sais-je. Aller se promener au lieu de rester dans la cellule pour aller discuter avec un collègue à côté. Les logismois, c'est vraiment la voie des démons. Ils nous apprennent à nous détourner de la volonté de Dieu. Dans le monde, on ne les entend pas, on ne les identifie pas comme des voix de démons. Quand on écoute la télévision, on a l'impression que c'est légal, la télévision, c'est fait par des gens comme nous. On a l'impression que c'est gentil, quoi. Des gens qui ont peut-être des opinions différentes, mais voilà tout. Or, ce qu'on entend, la plupart du temps, c'est la voix des démons à travers ça. Mais ils se cachent bien. Au désert, ils ne se cachent plus. Parce que dans le dépouillement de la sèse, eh bien, tout apparaît au grand jour. C'était ça l'objet du combat des moines au désert. Et bien sûr, la vie religieuse, au long de l'histoire, a hérité de cet acquis fondamental. Ces pensées, ce sont des désirs, et des désirs qui nous éloignent de Dieu, dis-je. Alors, il y en a trois sortes, selon l'Évangile, qui sont repris et approfondis par saint Jean sous la forme des trois convoitises. Il y en a beaucoup plus. Dans le Nouveau Testament, on trouve des listes de péchés qui sont nombreux. Mais là, ce sont des tentations. Et elles se réduisent, nous disent les synoptiques, à trois formes. Elle est physique d'abord, c'est les pierres changées en pain. C'est la leçon à retenir que Jésus nous donne. Il faut savoir jeûner de temps en temps, à savoir vérifier si les appétits matériels ne gouvernent pas notre existence. Et pas seulement attendre que notre âme crie famine, le vérifier soi-même, faire le point sur tous nos attraits matériels, tous nos appétits matériels. Alors c'est la nourriture, mais c'est tous les objets matériels, c'est tous ces objets de consommation qu'on voit partout, qui brillent partout sur les murs. Donc il faut apprendre à dépasser tout ça pour pouvoir l'offrir à Dieu. Si on ne le consacre pas à Dieu, on devient leur esclave, on retourne en Égypte. C'est la première leçon, le premier type de tentation qu'il faut supporter, dépasser, vaincre. La seconde forme, c'est les royaumes de la terre et leur gloire. Le diable montre tout cela à Jésus, il l'élève au-dessus de... Vous voyez, il y a une espèce de crescendo dans les trois tentations, on s'élève de plus en plus. Au départ, on est à ras du sol, on est au niveau de la vie strictement individuelle, de ses petits besoins corporels. Et puis là, le diable commence à l'élever et à lui montrer eh bien, les autres, le regard des autres. Et là, c'est la vanité. Il y a une chose intéressante, dite au passage, le diable dit à Jésus explicitement, « Tu vois, ces royaumes, ils m'ont été remis. Toute cette vanité que je te montre, tout ce qui brille et qui passe, mais qui captive le regard, qui emprisonne le cœur, qui rend ivre les esprits, tout cela m'appartient, m'a été remis, et tout cela n'appartient pas à Dieu par conséquent. Toutes ces nations, toute leur gloire, tu pourras chercher Dieu autant que tu voudras, tu ne le trouveras pas, parce qu'ils m'obéissent à moi, je suis leur maître. » Ça ne veut pas dire que les gens qui composent des nations sont mauvais, mais là c'est explicite. Dieu doit disputer à son adversaire les âmes qui sont prisonnières dans une espèce de système carcéral en ce monde, comme il n'était en Égypte. L'Égypte n'est pas morte. L'Égypte continue de régner et elle est toujours de plus en plus forte et de plus en plus exigeante tout au long de l'histoire. Et embrasser ses vanités, se laisser enivrer par elles, ces vanités, c'est quoi ? C'est rayonner aux yeux des autres sous une forme ou une autre. C'est le pouvoir, mais c'est aussi l'argent, c'est le monde du spectacle, c'est tout ce qui brille, quoi. Être vu, contemplé, admiré, convoité par les autres, exister grâce à ces objets qui brillent, à ces positions brillantes. Alors, la gloire des nations, qui passe et qui n'est rien, mais qui peut vraiment transformer la vie de quelqu'un en la vidant complètement de sa substance. Et en la transformant en une espèce de lampadaire que tout le monde contemple. Et ça, ça appartient au diable. Le diable ne peut pas donner des choses positives. La gloire des nations, c'est de cela qu'il s'agit, hein, la gloire et le pouvoir. Eh bien, ce n'est rien, ça ne nourrit pas nos âmes. Et même s'il faut évidemment soigner le bien commun, le bien commun, ce n'est pas la gloire des nations, c'est tout autre chose. C'est fondé sur le partage, c'est fondé sur la charité fraternelle, sur un travail commun, sur une vision familiale de l'humanité. Et enfin, il monte encore d'un cran en l'amenant au pinacle du temple à Jérusalem. Le temple, c'est le symbole de la médiation avec Dieu. Et il lui dit, dispose de la vérité, tu le peux, jette-toi, tu n'es qu'un homme, mais jette-toi là en bas du temple et Dieu interviendra, les anges te porteront. Et à chaque fois, à ces trois tentations, Jésus oppose une parole. Et là, c'est « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Bien sûr, Dieu nous aime. Mais Jésus nous dit, nous sommes faits pour faire la volonté de Dieu et pas l'inverse. Dieu ne doit pas faire notre propre volonté. De même qu'il ne faut pas mettre la religion seulement au service de la matérialité, le besoin de pain, par exemple. Et il faut encore moins la mettre, évidemment, au service d'un monde qui est éloigné de Dieu. Vous voyez, le pauvre Jésus, s'il avait succombé à cette tentation, il y avait un film là dans les années 70, là, Jésus Superstar, qui ridiculisait totalement la religion. C'est ça, vous voyez, une religion qui cherche une alliance avec le monde sera complètement foulée aux pieds des démons. Là, la grande leçon, c'est qu'on n'a pas à définir le bien et le mal, ils sont déjà définis. On n'a pas besoin de définir la vérité, elle existe de toute éternité. Nous avons à devenir ses disciples. C'est ce que dit le Seigneur aux démons. Et les trois formes de tentation rassemblent tous les aspects que peut prendre le tentateur envers les uns et les autres au cours de notre vie. La tradition monastique a développé, il y a les huit vices d'Évagre le Pontique, les sept péchés capitaux qui sont devenus ensuite la synthèse de ces huit vices. On essaye de réduire, mais en même temps de développer, vous voyez. Mais là, ramené à trois grandes catégories, la dimension physique de l'homme, c'est la première tentation. La dimension psychologique de l'homme, c'est la seconde tentation, la vanité. Et la troisième, qui est au niveau de l'âme, l'orgueil de la vie, nous dit saint Jean. Eh bien, c'est vraiment magnifique de pouvoir ainsi résumer toutes les tentations possibles. Et en même temps, de nous dire où diriger notre ascèse pendant ce carême. On a trois grandes directions qui sont trois dimensions de notre être que nous devons mettre dans la marche du carême. Moins nourrir son corps, et c'est pas seulement la nourriture, c'est beaucoup d'autres choses, de tous les désirs matériels, eh bien c'est nourrir davantage son âme. Et de même, faire jeûner un peu son imaginaire, ça permet de redonner à l'âme beaucoup plus d'ampleur et d'espace. Demandons au Seigneur de nous accompagner, de nous envoyer notre ange gardien pour combattre ces démons au désert. Le désert, ce n'est pas un lieu, il est matériel. Le désert, il nous accompagne comme cadre extérieur tout au long de notre vie, mais comme cadre intérieur. Paul de la Croix parlait du désert intérieur, du désert sacré. C'est la profondeur de l'âme, et c'est là la fine pointe de l'âme. C'est là qu'il nous faut aller impérativement un jour ou l'autre de notre vie. Nous devons nous intérioriser, c'est le mouvement même de l'homme. On pourrait le qualifier d'anthropologique. Une intériorisation progressive jusqu'à une entrée dans le royaume des cieux.